Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut et re-zut derrière.
Ah, je vois un monsieur se fout de moi, monsieur Fédironi.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All is beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour les amis.
Hello.
Salut.
Comment ça va depuis vendredi alors qu'on est encore jeudi soir et qu'on enregistre d'affilée?
Eh bah, du coup, c'est, ça va.
Il faudrait qu'on trouve une autre façon de rentrer dans ce podcast du mardi. Arrêtez de dire toujours comment faire comme si le week-end était passé alors qu'il n'est pas du tout passé pour nous.
Ah là là, ouais. Cette semaine qui commence, qu'est-ce qu'on est content.
Ouais, mais on n'est jamais content un mardi. T'es
content.
Déjà content un mardi, toi?
Bah oui, j'ai passé le lundi. En général, je me mets une caisse pour survivre à la semaine. Et du coup, je me couche tôt. C'est super le mardi.
Bon, si on allait faire...
La tristesse du gars, mais...
mais c'est pas vrai. J'attends le mercredi. Allez.
Et si on allait faire un tour dans les sous-sols pour jouer de la trompette très fort? Underground d'Emir Kusturica, Palme d'Or du Festival de Cannes en 1995, qui bénéficie d'une ressortie en salle depuis mercredi dernier grâce à Malavida Film, et pas une mais deux ressorties en salle, puisque vous allez pouvoir voir la version originale telle qu'elle a été primée au festival, ainsi que la version longue qui est en fait l'ajout des 6 épisodes de 50 minutes qui avaient pu d'ailleurs à l'époque déjà être diffusés par Arte. Peut-être bien, comme d'habitude, lorsqu'on fait du patrimoine, peut-on dire un mot d'Emir Kusturica qui veut s'y coller? C'est Simon qui s'y colle.
Bah, Emir Kusturica, il fait partie de ces auteurs qui ont véritablement régné sur le cinéma d'horreur dans les années 80-90.
Cinéma d'horreur?
Non, je veux dire d'auteur. J'ai dit d'horreur.
Je pense qu'on la garde.
Oh, c'est rigolo. Emir Kusturica, il fait partie de ces auteurs qui ont absolument régné sur le cinéma d'auteur des Européens des années 80-90, et avec un rayonnement encore un peu supérieur, parce que c'était vraiment un des chouchous cannois, quoi. Donc, on va dire, il a bénéficié des yeux et de l'attention de toute la presse et d'une grande partie du public cinéphile mondial. Même s'il a commencé sa carrière, on va dire, sa reconnaissance du côté de Venise, dès son deuxième film, il arrive sur la croisette avec Papa est en voyage d'affaires. Ça se termine par une palme d'or, la première. Il en chopera une deuxième avec Underground, etc., etc., etc. Je vais pas vous faire une fiche Wikipédia. Sachez en gros que sa grande force et sa malédiction, c'est d'être un metteur en scène avec un style reconnaissable entre 16 milliards. C'est-à-dire que tu ne peux pas te tromper quand tu vois un film de Kusturica. C'est évident, parce qu'il y a une musique qui n'est que la sienne, dont il fait un emploi qui n'est que le sien, qu'il a une manière d'utiliser ses décors qui lui appartient totalement, un goût pour mélanger la tristesse, le sordide et une espèce de fantaisie furieuse. Qu'on peut retrouver peut-être que chez un Gilliam, et encore, lui est très singulier toujours dans cette manière d'agencer ses éléments. Il y a un mélange en fait de naïveté et de grande cruauté, je trouve, dans son cinéma, qui sont assez intéressants aussi et assez typiques. Et surtout, tout ça concourt à faire un style extrêmement marqué. Or, quand vous avez un style extrêmement marqué, il est assez fréquent qu'après avoir été au pinacle, au firmament de la grâce, vous tombiez un petit peu dans l'oubli parce que vous êtes attaché à une époque. Il faut bien voir quand même que ce bon vieux Emir Kusturica, la musique de ses films était à ce point-là appréciée et reconnue, que quand il s'est mis à faire des tournées avec son No Smoking Orchestra, ça s'écoutait jusque dans les lycées. Moi, j'étais au lycée à Nevers, les copains babos avec des Sarwell, des joints dans dans les dreads et les pieds nus, ils écoutaient No Smoking Orchestra, je veux dire, enfin trio à côté, dire c'était pour les poissons mais rouges quoi.
Moi c'est la même chose, hein. Moi les potes les plus gauchos que j'avais au lycée, et on a fait le lycée avec quand même 10 ans d'écart, se camaient la tronche à la musique de Goran Bregovic, qui est le compositeur historique des films de Mir Kusturica. Ouais.
Voilà, mais
et à l'époque ça me cassait bien les pieds d'ailleurs.
Oui, mais tu vois, mais ce qui témoigne quand même de l'énorme influence qu'il a eu, quoi. Et c'était pas le cas que dans les collèges et les lycées de France profonde, hein, loin s'en faut. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce style et cette empreinte extrêmement puissant, marquant, font que à l'aube des années 2000, il a commencé à tomber un petit peu dans l'oubli. Alors d'une, parce qu'il a eu des prises de position politiques qu'en fait il a toujours eu, hein, mais qui ont été de plus en plus explicites et de moins en moins, j'ai envie de dire, compatibles avec les bonnes âmes de nos institutions de le cinéma, et puis des positions politiques qui ont fini par devenir même franchement, on va dire, complexes et difficiles à gérer. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as envie de lui dire, écoute, tu fais des très bons films, mais faut te fermer ta bouche, quoi. Et ajouter à tout cela le fait que tout style extrêmement marqué à certains moments semble un peu daté, ce qui est pas le cas. Encore une fois, je le dis pas comme une critique, mais tombe un peu en déshabitude, et je pense, et d'ailleurs le fait que Underground ressorte ces jours-ci nous indique qu'il pourrait bien revenir un petit peu en grâce, parce que quel que soit, même si on en parlera forcément, son positionnement politique, et qui me semble déjà très visible dans Underground pour une partie, c'est un immense cinéaste et c'est un artiste assez passionnant. Et qui justement va, alors on y reviendra peut-être aussi, va réussir à encapsuler dans son cinéma, volontairement ou malgré lui, mais peu importe finalement, beaucoup des tensions, des contradictions qui ont miné l'Europe et l'Europe de l'Est au cours des dernières décennies, parce qu'on n'a jamais eu, nous, je pense, l'occasion d'en parler dans ce podcast, mais on l'oublie souvent, Emir Kusturica, c'est un enfant des conflits qui ont ensanglanté et pulvérisé toute la partie d'Europe à laquelle il appartient, et lui-même fut aux premières loges d'un des conflits les plus violents depuis la Seconde Guerre mondiale, où il a été partie prenante. Quand je dis partie prenante, je veux dire qu'il a touché, ensanglanté dans sa propre chair. Et donc, avant de tirer à boulet rouge sur ce bon vieil émir, il convient un petit peu d'appréhender cet artiste pour bien voir d'où et de quand il parle.
Oui, souvenons-nous, puisque moi, pour le coup, c'est vraiment ma génération, que la guerre qui va ensanglanter les Balkans, c'est-à-dire la guerre entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, c'est une guerre à l'intérieur et aux portes de l'Europe, quand on en parle aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'était vraiment au cœur de l'Europe et c'était inenvisageable. On ne pensait pas qu'il pourrait y avoir une guerre et qui tuerait et qui...
Et qui s'accompagne de nettoyage ethnique et de charniers.
Et de charniers au milieu de l'Europe, si peu de temps après ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être un mot avant d'arriver à Underground, je ne sais pas si quelqu'un veut en dire quelque chose, c'est que la notoriété du cinéma d'Emir Kusturica est telle que son film précédent, il va le faire aux États-Unis, il sort en 93. 93, moi, c'est l'année où je passe mon bac, c'est l'année où tout le monde écoute le morceau de Goran Bregovic chanté par Iggy Pop, que vous avez forcément en tête.
Voilà,
moi, j'ai immédiatement envie de me trancher les veines avec un truc d'enveloppe. mais non, alors que j'adore Iggy Pop, mais on entendait ça partout, ça me sortait par les narines. Arizona Dream, quelqu'un veut en dire un mot, Sophie? Arizona Dream avec Johnny Depp et Jerry Lewis.
Et Faye Dunaway et Vincent Gallo. Et je pense que c'est un peu le hasard que je sois tombée sur ce film adolescente. C'est juste que j'ai été adolescente et j'étais très amoureuse de Johnny Depp, comme on n'est pas tous parfaits, je suis désolée. Et il était très beau dans ce film et j'avais 16 ans. Et c'est pas du tout le genre de film qu'on regarde quand on a 16 ans, car c'est... J'ai envie de dire une œuvre... En fait, Simon, t'as complètement raison quand tu dis Terry Gilliamesque, parce qu'il y a des axes de caméra qui ne sont présents que chez eux. Un espèce de pseudo-contre-plongée légèrement fisheye qui arrive de temps en temps, mais de manière très brève, suivi de plans-séquences un peu absurdes. J'ai l'impression que je vois ça que chez eux. Et surtout, ils ont un goût pour l'onirisme qui j'ai l'impression, transcende un peu tout. Arizona Dream, c'est cet énorme casting pour cette histoire un peu absurde de deux cousins, un qui sait pas du tout où il va, qui va tomber amoureux d'une nana qui veut construire un avion ou en tout cas une machine à voler dont il va plus ou moins tomber amoureux, alors qu'elle a une fille suicidaire qui traîne tout le temps avec une tortue. En fait, j'ai l'impression que les films de Kusturica, parce que du coup de ce que je connais de son cinéma, c'est que ça se narre comme une narration d'enfant. J'ai l'impression qu'on peut dire, alors c'est l'histoire de deux personnages, puis il leur arrive ça, puis en fait suite parce qu'ils ont rencontré un tel. Et ben d'un coup il y a ça. Et puis la musique en fait. Et en fait j'ai l'impression que cette espèce de narration sans fin qui donne une œuvre complètement fleuve, complètement dynamique, complètement folle. Parce que c'est ça que je ressens dans les œuvres de Kutsuritsa, c'est une espèce de folie à la fois douce et amère, à la fois complètement onirique et pourtant terriblement teintée d'un réalisme un peu sordide. Et je trouve que c'est ça qui est super beau. En découvrant Underground, le premier truc que je me suis dit, c'est que en 10 minutes de film, il y a tellement d'effets visuels et cinématographiques que j'en ai presque le tournis. Je suis fascinée, je suis hypnotisée. Alors, je me dis, ok, il y a ces deux personnages qui tirent avec... J'aime bien en fait le décrire comme si c'était un enfant. Il y a ces deux personnages qui sont sur une calèche et ils sont un peu alcoolisés, ils tirent avec des armes à feu, mais derrière, il y a de la musique, mais... En fait, elle n'est pas dans le film. En fait, ils sont suivis par un groupe de musiciens. Et puis, en fait, ils arrivent et c'est toujours le même plan. Puis là, il y a quelqu'un qui brise le quatrième mur pour nous dire qui sont ces personnages, comme si on était dans une pièce de théâtre. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une description plan par plan de 150 éléments différents. Et puis, d'un coup, t'entends, tu prends un peu de recul et tu te rends compte qu'en fait, l'œuvre, elle est majeure. Elle peut aussi bien se décrire de cette manière absurde que si on prenait le temps d'expliquer ce que c'était le parrain, comment c'est très sérieux, très lettré, très pesant, très digne comme cinéma, qu'en fait on est plutôt proche d'un cinéma italien un peu comme Le Guépard, ou enfin vraiment quelque chose à la Visconti qui va saisir une époque au seuil d'un bouleversement historique, et à la fois dans quelque chose de gargantuesque en termes de personnages. Vraiment, je ne sais même pas décrire ce qu'est Underground tellement c'est fou. Je trouve que c'est une œuvre absolument majeure.
Qui veut s'y risquer, Arthur ?
Bah juste, c'est marrant, à vous écouter tous les quatre, j'ai vraiment pas eu la même enfance. J'ai jamais entendu cette musique. Je ne connaissais pas beaucoup, à part le Arizona Dream que j'ai jamais vu au Paralab. Je connaissais pas, donc j'ai vraiment découvert moi avec Underground.
Si tu le refais, Sophie, je te mords, je veux rien.
Refais-le, s'il te plaît, j'ai envie de voir.
Non.
Donc moi je découvre ce cinéaste avec ce film que je trouve absolument stupéfiant de bout en bout, et vraiment 2h45 je pensais que j'allais tomber du nez parce que je l'ai regardé un peu tard, et franchement j'ai été tenu en haleine. Mais alors c'est exceptionnel, parce que j'ai ressenti vraiment un truc, je vais vous raconter après pour la faire courte entre guillemets parce que c'est quand même 2h45, c'est l'histoire de deux amis. Le film commence, c'est la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'arriver, et par A plus B, ils vont commencer à recueillir des gens dans leur cave, et va se passer... Ah, c'est difficile sans spoiler. Hein.
T'as vu ?
Ah, c'est difficile sans spoiler. Ouais. Disons que le film est coupé en trois parties, en trois temporalités, et que d'abord, ils sont ensemble, puis ils vont être séparés, puis je vais rien dire. Putain, c'est vachement dur à pitcher, en fait.
Ah bon, tu trouves ?
Bah ouais, parce que comment tu...
Moi je le fais sans spoil. Moi je l'ai vraiment, je peux vous le dire, je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle, parce que je l'avais vu en salle à l'époque.
À l'époque j'avais 2 ans. Donc.
C'est une communauté qui va se réfugier sous terre pour échapper à la guerre. La guerre s'arrête, sauf que...
Celui qui leur sert d'interface avec la surface ne leur dit pas que la guerre est finie. Ça. Parce que ça l'avantage, et ils vont continuer à rester sous terre.
Ouais.
Underground. Okay.
C'est un film qui est donc scindé en trois parties. D'abord, ils sont ensemble. Puis après, il y a toute la communauté qui est sous terre, sauf Marco, qui est en haut avec sa conjointe. Et puis, une troisième partie où, à un moment, la cave va devoir être confrontée à l'extérieur. Et moi, j'ai passé la première partie à être amusé par ce que je voyais. Je trouvais les personnages assez rigolos, je trouvais qu'il y avait une ambiance de fête, je trouvais ça original, je sentais plein d'influences, etc. Je me suis dit, ah ok, d'accord. Puis arrive la deuxième partie où tu comprends que, ah oui, donc là, il est en train de leur mentir, il ment à son meilleur ami et il leur fait croire que, d'accord, c'est ok. Et donc là, moi, je passe, mais en plus, elle est longue, la deuxième partie, c'est peut-être la plus longue, elle dure bien une heure et demie. Fasciné, vraiment, je suis fasciné par ce que je vois, par la méchanceté et la médiocrité de ce personnage, et en même temps, tu peux pas comprendre ce qu'il fait, mais il y a des explications sur la lâcheté de ce personnage et ce qu'il essaie de faire, et en même temps l'attache qu'il a avec les gens qui vivent en dessous, et toutes les interrogations. Je trouve vraiment fasciné. Et puis arrive la dernière partie où là, pour le coup, je vais rien dire parce que c'est ça qui m'a écrasé la gueule, où vraiment, sans mentir, j'ai passé 20 minutes à chialer. La dernière partie, je la trouve mais dingue dans ce qu'elle raconte, parce qu'en plus, derrière tout ça, évidemment qu'il n'y a pas juste trois temporalités, hein, c'est un peu rigolo pour raconter des gens sous une cave. Non, il raconte l'histoire de son pays, en fait. Il raconte l'histoire d'un pays qui a connu la guerre, qui s'est arrêté de la guerre et qui a revécu en 1992 une guerre, et qui raconte comment ils ont vécu dans le déni d'une guerre qui est terminée, mais en fait, bah non, parce qu'il y a un conflit qui s'appelle la guerre froide, où on pense que c'est apaisé, mais en fait, ça ne l'est pas. Enfin, c'est un film qui est extrêmement riche. Au-delà de ce que disait Sophie sur les idées formelles, c'est un film qui, au fond, au cœur de son récit, est extrêmement riche. Et pourtant, quand on regarde bien, c'est un triangle amoureux. Tout simplement. C'est juste un triangle amoureux. Non, je trouve que c'est très fort. Et vraiment, moi, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, parce que je sais qu'Alexis et Sophie ont découvert le film en même temps que moi. Moi, la fin m'a roulé dessus. Mais vraiment roulé dessus.
Moi, c'est plus un... Parce que c'est quand même un gros morceau, il faut le digérer, quoi. Et moi, je suis assez curieux de mater la version XXL quand j'en aurai l'occasion, mais c'est plus un choc esthétique qu'un choc émotionnel. Même si, de fait, le film me bouleverse à bien des endroits, mais je suis juste estomaqué par la réussite esthétique du film, qui est bourré d'idées à tous les niveaux, et c'est que des idées qui ont du sens, en fait. Parce qu'on en a vu plein au cours de notre vie de cinéphile, des films qui arrivent et qui nous disent « Oh, je vais t'en mettre plein la vue !» Et des fois, c'est Enter the Void. Et là, on se dit « Oui, bon, d'accord. Ok, tu m'en mets plein la vue, mais il n'y a pas d'histoire. Donc bon, à partir de là, t'es bien mignon, mais il va falloir passer la seconde. » Et en fait, là, on est face à un film qui fourmille d'inventivité, qui passe son temps à non pas opposer, mais à conjuguer un réalisme assez brutal, assez poisseux, parfois même assez anxiogène, avec un onirisme complètement enfantin, candide, totalement fantasmatique, et les deux fonctionnent systématiquement main dans la main. Il n'y a aucune rupture véritable entre le réalisme et l'onirisme, et j'ai rarement vu un film réussir à maintenir l'équilibre aussi longtemps et aussi intensément. C'est un film dans lequel il y a vraiment, pour le coup, je trouve, un sens du montage et de la narration qui est extraordinaire, ouais. Parce qu'il faut réussir quand même à faire cohabiter deux espaces, un espace qui est donc sous terre, qui est dans une stagnation temporelle, c'est-à-dire que les personnages qui vivent sous terre sont persuadés que le monde au-dessus d'eux n'évolue plus, qu'ils sont coincés, que ça n'avance plus, et au contraire, on a le monde du dessus qui ne cesse de bouger, qui ne cesse de se transformer. Ouais. Donc les costumes évoluent, les personnages évoluent, le découpage évolue, l'éclairage évolue, et on a comme une espèce de point d'ancrage, cette cave où on nous ramène tout le temps. Et en fait, c'est aussi, je trouve, un film qui est, et je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté politique dans le film, maintenant que je sais quelles sont les opinions d'Emir Kusturica, parce que je n'étais pas très bien renseigné sur la question, mais le fait est que je pense que malgré tout, c'est un film qui arrive à saisir très très bien ce qu'a été le XXe siècle, a fortiori pour les pays d'Europe de l'Est, parce que pour resituer très 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 succinctement, il y a trois chapitres dans le film, parce qu'il y a eu trois phases pour la Yougoslavie. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation nazie, puis après il y a eu la dictature communiste avec Tito, et puis après il y a eu la guerre civile qui a vu la Yougoslavie exploser. Je schématise vulgairement,
mais
il y a eu grosso modo trois phases. Ce qui veut dire que le conflit, avec un C majuscule, quel qu'il soit et quels que soient les opposants, du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, pour la Yougoslavie, il s'est quasiment jamais arrêté. Parce que évidemment qu'à l'époque où Tito est au pouvoir, il y a des conflits internes qui sont très forts dans le pays, il y a des conflits ethniques, évidemment. Donc c'est une guerre froide qui n'est pas aussi froide en Yougoslavie qu'elle peut l'être en France, par exemple.
Fais attention un peu, parce que l'une des caractéristiques de Tito, c'est précisément que c'est l'un des seuls dirigeants des républiques affiliées à l'URSS qui a pris son autonomie de Staline et qui a longtemps... Oui, ça reste une dictature communiste, mais qui était très particulière par rapport aux autres dictatures communistes de l'ex-URSS, qui était encore une fois, qui a coupé très tôt avec Staline, et qui a été pendant très longtemps reconnu comme non seulement un dictateur à peu près fréquentable, mais en plus quelqu'un qui maltraitait beaucoup moins ses populations que les autres dictateurs des dictatures communistes, et qui justement a réussi à faire vivre et à faire cohabiter des ethnies radicalement différentes, notamment, enfin donc je te dis ça historiquement, oui, il faut faire, non, pour mesurer un peu ce que tu as dit.
Non, mais c'est un peu ce que le film dit, ceci dit.
Mais c'est un peu ce que le film me dit, mais bon, encore une fois, les conflits...
Ça reste un dictateur, hein, je ne suis pas en train d'essayer de...
Non, mais j'ai bien compris. Mais les conflits peuvent ne pas être des conflits armés ou des affrontements à main nue, ça reste des conflits larvés, quoi. Il y a des oppositions ethniques, bah, on a bien vu ce qui s'est passé quand on est arrivé au début des années 90 en Yougoslavie, bon, c'est quand même un peu parti en couille, cette histoire. Donc il y a quelque chose qui dormait depuis très très longtemps... qui a fini par exploser. Et ça dormait forcément sous Tito. Même si, de fait, c'est vrai, tu as raison de le préciser, Tito a œuvré pour que ça se colmate à peu près bien pendant sa présidence.
Je voudrais surtout pas qu'on interprète ce que je suis en train de dire sur le fait que Tito n'ait pas été un dictateur. Non, ça reste un dictateur communiste, etc., etc. Néanmoins, je tiens à spécifier qu'il y avait une particularité de la dictature et du pouvoir de Tito par rapport aux autres républiques soviétiques.
Et je pense que le film tente d'en parler de ça. Ouais.
Ah bah, même ce qu'on peut, alors ce qui est à la fois passionnant et très discutable dans le film, c'est que finalement c'est un film qui te dit non, nous le peuple, on n'est pas responsable, on a été mis là dans cette situation, on a été enfermé, on a été manipulé et tous ensemble on souffre. Or, est-ce que le peuple peut être irresponsable? Je te dirais, la zone d'intérêt y répond. Voilà, en cela, c'est un cinéma, enfin un cinéma, une proposition qui est très discutable, mais discutable, ça ne veut pas dire non respectable, hein, ça se discute. Voilà, c'était juste. Non, moi, quelque chose qui me passionne et que tu évoquais un peu, je crois, enfin, je ne sais pas ce que tu en. Moi, je parle d'un souvenir plus lointain que le vôtre, je l'ai vu il y a des années, le film. Mais moi, ce qui m'avait énormément marqué, parce que, comme toi, Alexis, la mise en scène, ça me passionne et je peux être un peu docte à être là, genre, non, les règles des 180 n'ont pas été respecté. Ça n'est pas signifiant comme il faut, monsieur. Retournez à l'école. Et je l'étais encore plus pendant mon adolescence. Je pouvais dire, genre, moi, j'ai compris le cinéma parce que je comprends la grammaire, la mise en scène. Ben voilà un type qui n'en a rien à branler. Mais alors, rien à branler. Il peut casser le quatrième mur. Il peut te niquer les 180 degrés. Il s'en fout des raccords. Enfin, j'exagère, évidemment. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il appréhende la langue du cinéma avec une liberté qui pourrait tout foutre par terre tout le temps. Et pourtant, ça tient toujours et c'est toujours miraculeux. Et ça, c'est vrai dans Underground, c'est incroyablement vrai dans Chat Noir, Chat Blanc. Et c'est peut-être un des trucs qui est le plus excitant et intéressant avec Kusturica. C'est qu'il a comme ça cette espèce de liberté permanente, d'élan. C'est une machine qui s'emballe et qui ne fait que s'emballer.
Peut-être refaire un tour de table pour nous dire individuellement ce qui, dans ce film, vous a touché particulièrement, ce qui fait que vous êtes... nous sommes globalement enthousiastes, même si bon, moi je me prononce pas plus que ça sur le film parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai vu en 95 et moi je n'en ai pas un souvenir ni suffisamment précis ni suffisamment enthousiaste pour que mon point de vue ait vraiment quelque chose d'intéressant à apporter à votre discussion. Donc c'est pour ça que je reste un peu en recul. Mais est-ce que vous voudriez dire quelque chose de plus personnel ou de ce qui fonctionne, de ce qui touche quelque chose qui va droit au but en termes de cinéma, en termes de narration, de personnages, d'émotions, que sais-je
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Arthur.
Moi, c'est ce que je disais. En fait, c'est la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire qu'effectivement, évidemment que le parallèle avec l'histoire du pays, elle est grande et elle est bien. Elle est racontée de manière évidente avec un néon qui clignote et qui te dit « Hey, tu as compris le message ou pas ? Tu l'as compris ou pas ?» Moi, ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le parcours des personnages, le parcours de cette femme, Natalia, qui va d'abord... essayer de vivre et après subir et comment elle va essayer de s'en sortir. Et il y a notamment deux scènes de mariage que je trouve absolument incroyable et de ce que ça raconte des personnages et de la manière dont lui va la filmer avec évidemment il y a du Terry Gilliam, je pensais aussi, alors me jetez pas de pierre, mais évidemment que c'est un cinéaste qui a dû influencer beaucoup Jean-Pierre Jeunet, mais en même temps il y a des moments où les musiciens et la manière dont c'est filmé et les costumes, je regarde, je fais putain, je connais pas bien Fellini, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu ce que j'ai vu de Fellini, non?
Bien sûr. Enfin, c'est la référence évidente.
Mais du coup, j'ai l'impression qu'il me crache plein de références où je connais pas bien, mais il y a un moment où j'ai l'impression qu'il va me citer plein de cinéastes, d'œuvres qu'il aime. Enfin, c'est un film qui est extrêmement généreux et en même temps qui est aussi parfois extrêmement resserré. Et je le redis, moi, la scène de fin, qui est en plus. Alors, je sais, on pourrait parler de symboliquement et politiquement ce qu'elle raconte sans. Gâché, mais la scène de fin, qui est une scène de mariage, de réconciliation ou pas, de distanciation, je la trouve bouleversante. Et cette fois, je la trouve bouleversante dans la petite histoire, dans la grande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire que moi, je pense au mariage de la deuxième partie que je trouve incroyable dans ce que ça raconte du triangle amoureux, plus que dans la grande histoire, alors que la fin, elle dépasse tout ça. Et vraiment, il y a quelque chose qu'il réussit à toucher du doigt. C'est quand même pas simple de faire des fresques sur quasiment 50 ans, où tu tiens trois personnages. Et, non, en vrai, il en tient au moins 5, parce qu'il y a aussi les deux frères. Donc il en tient au moins 5 sur une telle durée, avec une telle écriture, un récit qui est aussi dense, une image qui est aussi intense. Ouais, je suis pas sûr d'avoir déjà vu des films aussi bien tenus et qui m'amènent à cet endroit-là précisément d'émotion à la fin.
Ben moi, je crois que personnellement, le film rentre dans cette catégorie qui est tout à fait personnelle, pas du tout universitaire, vous allez comprendre pourquoi. Cette catégorie de film où, quelle que soit la durée du film, je termine le film en me disant, franchement, j'en aurais bien pris pour une heure ou deux de plus.
C'est clair.
Et ça arrive peu de fois, parce que je crois qu'il y a 5 films dans ma liste, dont Laurence d'Arabie et Voyage au bout de l'enfer en fait partie, et Il était une fois en Amérique aussi. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment, quoi. Le film dure 2h45, et c'est pas 2h45 qui vont... tout le temps passé comme une lettre à la poste, parce que le film est quand même assez fiévreux, assez exalté. C'est un film qui attend quand même de son spectateur qu'il fasse un petit effort pour suivre le rythme, pour s'accrocher. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de péripéties. C'est un film vraiment dense, mais il est traversé par une espèce de liberté de ton et une liberté de découpage et de mise en scène qui rend l'expérience hyper jouissive. Et tu vois, un truc tout bête, sans trop en dévoiler, mais vous vous en doutez bien quand on vous a pitché le film tout à l'heure, une partie des personnages est contraint de rester enfermé dans un lieu clos et on leur ment sur ce qu'il se passe au-dessus de leur tête. C'est assez élémentaire, mais vous vous doutez bien qu'à un moment, ils vont comprendre que ce qui se passe au-dessus de leur tête, c'est pas ce qu'on leur dit. Ce moment-là, je pense que 9 cinéastes sur 10 en auraient fait un grand moment de tragédie. Vraiment le moment de oh, « mon Dieu, on m'a menti pendant toutes ces années, je découvre le poteau rose et ma vie s'écroule ». Et Kusturica en fait une espèce d'énorme grand bazar burlesque assez drôle, avec deux personnages dans une voiture qui font n'importe quoi, dans un décor en plus bien précis, et la petite mise en abîme à ce moment-là est assez rigolote. Et donc c'est un film qui s'autorise comme ça à prendre des chemins de traverse à tout moment, à se dire « ça, normalement, ça m'emmène vers une scène tragique, bah, j'en ai rien à foutre, je vais faire une scène drôle et burlesque, quand bien même, dès la séquence d'après, je raccroche les wagons de la tragédie et j'y vais pas qu'à moitié, quoi. » Et donc, je trouve que c'est un film qui est toujours surprenant et qui est toujours qui prend pas son spectateur pour un crétin, déjà, et qui nous donne envie, en fait, de voir des propositions de cinéma originales. Si vous avez envie d'être vraiment diverti et en plus de voir un film que vous n'avez jamais vu dans votre vie, foncez voir Underground, quoi.
Et si vous aimez Fellini particulièrement ? Non, mais je veux dire, Fellini, il y en a dans tous les plans, il y en a dans tous ses films, dans Le Temps des Gitans, il y a des références à Marcord quasiment plan par plan. Simon ?
Oui, alors moi, il y a une expression qu'on emploie souvent, nous, critiques, dont j'ai jamais bien su ce qu'elle voulait dire quand on n'est pas à la Géode, c'est l'expression « film-monde ». Et en fait, et pour le coup, Underground, c'est un film monde. C'est-à-dire que du premier au dernier photogramme, je pénètre dans un univers dont j'ai l'impression qu'il est tangible, qu'il existe bel et bien, quand bien même il est fantasque, fantasmatique, délirant, enfin purement cinégénique. Voilà, c'est un film monde et ça, c'est une émotion très rare aussi.
Sophie ?
Je pense que c'est tout le symbolisme qui se cache derrière ce film et l'utilisation de, comme tu l'as dit, des références. Mais il y a un moment dans le film, au début je pensais à la scène de mariage centrale qui est un film en soi. Déjà c'est très rare d'avoir une scène qui pourrait être un film et pas juste un court-métrage, hein, qui pourrait être facilement un moyen-métrage en entier où on comprendrait tous les codes, tous les enjeux, alors que c'est foutraque et c'est pourtant si vivant, si triste. En fait, juste après, un petit moment après, il y a quelques plans aquatiques qui, en fait, pour moi, sont une référence assez évidente à des tableaux de Chagall et particulièrement à La Mariée, parce qu'on a justement une mariée sous l'eau avec son voile qui flotte sur une teinte extrêmement bleutée. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce plan-là est venu juste me dire qu'il y avait de la mortalité plus que ce que je ne pensais dans ce film, qu'il y a quelque chose de fondamentalement triste derrière cette effervescence de joie. Et même ce rire, je trouve que le film est tellement drôle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un trompettiste qui passe tout son film à dire « catastrophe, catastrophe !» Et genre vraiment comme si c'était un personnage de théâtre qui venait nous avertir que quelque chose de mal allait arriver en cassant le quatrième mur. Et pourtant, il prend 5 minutes pour montrer juste un personnage féminin dans de l'eau qui flotte comme si le temps s'arrêtait, comme si on nous ramenait à la brutalité, alors que c'est fondamentalement le plan le plus symbolique du film. Et je trouve que ça, c'est d'une virtuosité complètement dingue.
C'est amusant parce que tu parlais, pour faire écho à ce que tu disais, Arthur, de ce fouillis de références. Je crois que la scène aquatique, elle fait référence à un vieux film que je connais pour une raison particulière, qui est L'Atalante de Jean Vigo.
Celle de Dans sous-marine.
Voilà.
Il l'a cité comme référence. Ouais. Hein.
Voilà, et ben écoutez, si vous avez bien compris, foncez donc voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, et profitez surtout de pouvoir voir Underground d'Emir Kusturica sur un grand écran, que vous souhaitiez voir la version originale ou la version de près de 5 heures, hein, c'est ça, mis bout à bout.
C'est 18 de 50 minutes, ouais, ça fait plus de 5 heures.
Grâce à Malavida Films qui ressort donc le film en salle, et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt Vivre sous terre ou Aller plus haut. Ouais, bof.
Juste à la voix cassée, c'est dommage.
Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est les restes de fromage fondu.
Qui chante ça déjà?
Tina Arena.
Merci.
T'as répondu beaucoup trop vite.
Beaucoup trop vite.
Mais c'est la musique, les gars, je n'oublie jamais un nom.
Et pour la
carte. Ne demandez pas votre anniversaire, par contre. Démerdez-vous.
Et pour la carte blanche du patrimoine, Arthur, tu vas déclarer ta flamme à Beat. Voilà, dit comme ça, c'était pas du tout prévu.
Oh oui. Ah oh ben c'était pas du tout prévu. Non, je te jure, Nicolas, venant de toi, tu connais
même pas écrit. C'est même pas écrit. Ah, regarde, oui. Tu déclares ta flamme à Takeshi Kitano, mais ça.
Oui, enfin, il y a une émoticône aubergine, Nicolas.
Non, c'est pas. C'est pas une émoticône aubergine, c'est un peu une photo réduite de. Non, pardon. Donc à Takeshi Kitano, Takeshi Kitano.
Dont je vous avais déjà dit tout le plus grand bien lors de du dernier festival de Cannes, puisqu'il avait présenté son film qui n'est toujours pas annoncé pour avoir une quelconque sortie un jour quelque part. Je voulais revenir dessus parce que je me posais un peu la question, on en parle régulièrement sur, et puis on en a quand même pas mal parlé cet été, de d'où vient notre cinéphilie. Et moi je vous ai raconté donc cet été à un moment que moi j'ai pas grandi avec des parents qui me montraient les grands classiques. J'avais d'un côté un père qui aimait le cinéma très mainstream et qui me montrait certains trucs genre The Mask et autres, et une mère un télo, prof de français, qui me parlait de Tampopo et de Hanabi. Et donc moi, j'avais 15-16 ans et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je voulais vous parler de Takeshi Kitano parce qu'il s'est passé un truc assez incroyable au fil de mes années de découverte cinéphilique. C'est que ma mère me dit Takeshi Kitano depuis que je pense j'ai 12 ans. Donc c'est un nom que je prononce contrairement à Nicolas Martin. Très bien, Takeshi Kitano, je le maîtrise.
Takeshi Kitano, ça va. Oh.
Non, déjà tu dis beat, alors voilà. Donc moi, j'ai fait ce que j'aime toujours faire, à savoir essayer de me refaire un peu la filmo en entier. Alors j'en suis vraiment qu'à la moitié. Il faut savoir que la filmographie de Takeshi Kitano, elle est quand même assez monstrueuse. Mais ce qui est assez fascinant avec lui, c'est que vous le connaissez toutes et tous, je pense, pour Hanabi, qui est vraiment son film le plus connu, le film pour lequel il a eu le Lion d'Or. C'est un film qui est extrêmement important dans sa carrière parce que c'est un film qui intervient. Je vais essayer de vous raconter brièvement, mais en fait, je me dis, vous savez quoi, j'ai pas envie de trop raconter son parcours parce que j'ai le secret espoir qu'un jour on puisse faire un épisode patrimoine sur Takeshi Kitano où là, je pourrais étaler ma science sur qui c'est Takeshi Kitano. Faut juste savoir que c'est un.
Et pourquoi Beat?
Eh bien, je pourrais t'expliquer.
C'était son personnage de
télévision.
C'est
son personnage de comédie. Il avait donc en fait, il a grandi dans des quartiers très pauvres. Il a fini par rentrer dans une troupe de théâtre et il va rencontrer un autre humoriste avec qui il va former un duo qui s'appelait les Two Beats. B-E-A-T-S. Et donc lui, s'appelant Takeshi Kitano, ce sera Beats Takeshi. Et ensuite, il va commencer à avoir une certaine renommée, il va faire des sketchs à la télé, il va commencer à avoir une certaine virulence politique. Et il fera notamment une émission qui, figurez-vous, est encore active aujourd'hui, qui s'appelle Takeshi's Castle, qui est une espèce
qui
de.
Qui est la raison pour laquelle tout le monde connaît Takeshi Kitano en France.
En France?
W9, Takeshi's Castle, Vincent Desania, Benjamin Morgan, mec, toute ma génération, on a maté
ta génération,
oui, mais
boucle.
Tu regardais Takeshi's Castle, tu ne situais pas Takeshi Kitano là-dedans.
Non, mais je savais que le gars qui avait inventé le truc s'appelait Takeshi Kitano, parce qu'il disait son nom dedans, tu vois. Et on le voyait à la fin sur son petit char et tout, avec tous les candidats qui se faisaient
défoncer. Tu es si jeune.
Bref.
En fait, il y a un truc qui me fascine avec Takeshi Kitano, en vrai, quand on prend son parcours, c'est qu'il a commencé par la comédie, il a commencé par ses émissions débiles, et en même temps, il a toujours eu envie d'aller un peu ailleurs. Et donc, il va. En fait, et ça aussi, j'en avais parlé à l'époque où on avait parlé de la mort de Sakamoto. La première fois qu'il va essayer de faire autre chose, ça va être avec Furio. en 83, film de Oshima. Et en fait, il raconte quelque chose de très intéressant, c'est que vu qu'il c'était une grande figure de la comédie, quand le film est diffusé au Japon, les gens voient Takeshi à l'écran et rigolent, alors que c'est un film dramatique qui n'est jamais drôle. Donc lui, il va essayer de prouver à la terre entière, non, moi je peux faire autre chose de la comédie. Il va galérer, il va faire des téléfilms, il va prendre des rôles de yakuza, de méchant, de truand pour essayer de casser son image. Ça va fonctionner, il va faire quelques films. J'en arrive à Hanabi juste parce qu'il faut savoir que
Sonatine, mais c'est sorti en plus, c'est sorti en 93, c'est sorti la même année qu'Underground, bon, donc c'était vraiment mais
95 Underground.
Ah bah pardon, 93, donc 2 ans avant, mais c'est parce que
Arizona Dream. Ta-ta-la-la.
Ah non, je la mords. Oui, c'est à cause
dans ton bras, dans ton bras.
Donc Sonatine, voilà, Sonatine, c'est bien sûr. Moi, c'est ça. Moi, la première image de Takeshi, c'est vraiment l'image de Sonatine et de ce flingue posé contre la tempe et la violence de ce film incroyable, incroyable.
Moi, ce dont je voulais vous parler ce soir, mais je ne vais pas non plus trop parce qu'encore une fois, j'aimerais qu'on en parle plus tard, mais Hanabi, effectivement, un film extrêmement important parce qu'il faut savoir qu'il a eu un accident de scooter extrêmement grave. Il a failli mourir en 94. Il a eu le crâne fendu jusqu'à l'œil. Il a passé plus d'un an à être réopéré. C'est pour ça que si vous regardez Takeshi post 95, il a la moitié du visage qui est un petit peu paralysé. Hanabi, c'est le premier film qu'il fait. En fait, il a son accident de scooter au moment où il refait une comédie après des échecs commerciaux. Et du coup, Hanabi, c'est un peu le film de sa dépression post-opération, de sa dépression post-accident. Et c'est un film où lui, qui habituellement n'est pas forcément assez reconnu à l'international et n'est pas reconnu dans son propre pays, et ben d'un coup, il reçoit le Lion d'Or. Et d'un coup, c'est un film qui est universellement, qui va réconcilier autant les fans de Beat Takeshi que les lecteurs de Télérama, que tout le monde. Et donc, moi, je regarde Hanabi en me disant « Ma mère a raison, c'est un film important, je dois le regarder ». Et en fait, oui, Hanabi est un chef-d'œuvre, un de mes films préférés de tous les temps, il n'y a pas de sujet. Par contre, je voudrais vous parler d'un autre film de Takeshi Kitano qui n'est pas assez commenté, qui est un film qu'il a fait juste après Sonatine, justement, ou mais peut-être même juste avant, tu sais quoi, juste avant, qui est un film qui n'est pas beaucoup commenté. Pour la simple et bonne raison que quand Beat Takeshi est dans son personnage de clown à la télé et qu'il essaie de casser cette image-là, il va se mettre en scène lui en tant que yakuza, en tant que flic, en tant que cruel. Et c'est-à-dire quelque chose qu'il refera par la suite dans sa carrière un peu moins connue post-année 2000 avec les outrages et autres coda. Il y a un film que je considère comme étant pas loin d'être son plus beau qui s'appelle A Sin at the Sea qui est une anomalie dans sa carrière et qui pourtant va donner tout le ton de ce qu'il va faire dans les années 90. Et je vous le donne rapidement pour que si jamais ça vous intéresse, vous puissiez y plonger. Déjà, c'est le premier film qu'il réalise où il n'est pas à l'écran. C'est quelque chose qu'il ne va pas faire très souvent. Il le fera avec Keith Return également. Mais habituellement, Kitano, il est là derrière la caméra et devant la caméra. Il est toujours très impliqué. Là, il va raconter cette histoire sans se mettre lui en scène. Et en plus, là où on est habitué à avoir toujours beaucoup de violence chez Takeshi Kitano, même dans Hanabi, même dans L'été de Kikujiro quelque part, que son autre chef-d'œuvre, ça fait partie de lui. C'est sa manière de sortir la comédie, c'est la violence. Et là, il va nous raconter l'histoire d'un éboueur sourd et muet qui un jour va tomber sur une planche de surf où il est indiqué nage ou meurt, ou coule, quelque chose comme ça. Et qui du coup va commencer à vouloir aller surfer, sauf qu'il ne peut pas communiquer avec les surfeurs de la plage. Donc il y va avec ce qu'on imagine être sa petite copine et en même temps, ils sont assez distants et en même temps, ils ne communiquent pas. Et c'est donc juste l'histoire d'un éboueur sourd et muet qui va apprendre à surfer. Dit comme ça, on a l'impression que c'est le drame le plus basique au monde. C'est absolument magnifique. C'est un film quasi muet dans le sens où il n'y a pas de dialogue, mais qui ne va pas essayer de rajouter des couches. Enfin, ils sont sourds et muets, mais en même temps, ce n'est pas parce que ça... Qu'est-ce qu'il y a ?
Je viens d'avoir un flash mémoriel, j'ai vu aussi notre
film. Ah, tu as vu l'image dans ta pension
Google. Je regardais les images, j'ai vu le film, et effectivement, c'est absolument sublime.
C'est absolument sublime. Ils sont sourds et muets, mais en même temps, jamais Takeshi Kitano va essayer de mettre en avant les dialogues par la langue des signes, parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas ça, c'est juste de voir, juste de filmer son personnage, et de le scruter, et de juste regarder les émotions qui se passent juste avec un regard. C'est bouleversant. Donc, si vous aimez Takeshi Kitano et que vous dites, ouais, bien sûr, trop marrant, les Yakuza, popopoum, hop, ça tire de tous les sens, etc., sachez qu'il a fait un de ses plus beaux films, c'est un film sans lui, sans Yakuza. Évidemment, maman, merci de m'avoir introduit à Hanabi, à Takeshi Kitano, mais en fait.
De rien, mon chéri.
plus aigu.
De rien, mon chéri.
Non, c'est toujours pas ça. Okay. Mais voilà, si jamais Takeshi Kitano, on aime, sachez que A Sin at the Sea est vraiment pas assez commenté. Et je voulais vous en parler là, en espérant qu'un jour on puisse vous parler d'un autre de ses films dans un épisode du Patrimoine. Mais voilà, A Sin at the Sea, si jamais vous aimez Takeshi Kitano et que vous voulez être un peu surpris, je vous garantis que celui-là, vous n'allez pas le voir venir.
Voilà, foncez, plongez dans Takeshi Kitano. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de chefs-d'œuvre et de films formidables à découvrir. C'est tout, en tout cas, pour ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Mais pour nos abonnés chéris d'amour, ça continue dès demain, Alexis. Avec quoi exactement ?
Eh bien, avec un nouvel épisode de D'après une histoire fausse. Et je vais laisser Simon Rio, créateur et présentateur de ce format, nous expliquer de quoi il va retourner demain.
Menteur !
Et oui, en effet, D'après une histoire fausse explore les liens diffus, confus et complexes entre cinéma et littérature. Bah, dans cet épisode, je vous parlerai de Blade Runner, qui est l'adaptation de Do Androids Dream of Electric Sheep? C'est-à-dire, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Le film de Ridley Scott étant donc l'adaptation d'un des très grands textes de Philip K. Dick. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un très bon exemple de quelque chose de pas si fréquent en matière d'adaptation littéraire, où quand trahir absolument tout, c'est justement ce qui permet de respecter la substantifique moelle de l'œuvre. Pour vous le dire un peu plus précisément, en gros, Ridley Scott, enfin pas que lui, parce que ça a été réécrit pas mal de fois avant qu'il arrive sur le projet, mais bref, l'adaptation de Blade Runner est un film qui tord, transforme à peu près tous les éléments du roman originel et qui en retranche carrément, qui en absente de gigantesque. Et pourtant, on peut dire que c'est une œuvre fidèle. Comment ça se fait ? Pourquoi c'est dit que ça se fait ? Eh bien, je vous l'explique dans D'après une histoire fausse.
Et pour avoir accès à D'après une histoire fausse, Alexis, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Payer !
Au moment où vous écoutez cet épisode, nous avons passé le cap du 2 février 2024. Donc malheureusement, le code promo RST50 n'est plus valide. Désolé pour les retardataires. Néanmoins, le prix n'est pas hyper élevé non plus. On est sur du 6€ TTC par mois pour quand même 3 émissions différentes par mois. Pour l'instant, parce que je rappelle que le programme est évolutif et on travaille sur des nouveaux formats au moment où je vous parle, et c'est très simple, vous allez dans la description de l'épisode ou dans la description de n'importe quel épisode de Réalisation Trucage et vous avez un lien qui vous renvoie vers Acast+, vous rentrez vos informations, vous créez un compte, vous choisissez votre palier d'abonnement, il y en a deux, un à 2,40€ TTC par mois et un à 6€ TTC. Bon, celui à 6€, il a beaucoup plus d'avantages, donc c'est celui qu'on vous conseille, évidemment c'est le plus cher, hein. Vous savez qu'on est malin. Mais le truc c'est que vous n'écoutez pas l'émission sur une application de podcast, je suis obligé de vous informer que l'abonnement n'est valable que sur les applications de podcast. Donc si vous avez l'habitude de nous écouter sur Spotify et que vous voulez vraiment profiter de l'abonnement, il faudra aller sur Apple Podcast ou sur Google Podcast ou autre application de podcast, mais elles sont normalement toutes suggérées lorsque vous choisissez justement la plateforme, enfin l'application où vous voulez récupérer votre flux exclusif. Voilà.
Voilà, abonnez-vous, commentez-nous, écrivez-nous, nous vous répondrons. N'oubliez pas également que jeudi, ce sera Hurlequin, avec une carte blanche à l'auteur romancier Jean-Baptiste Delamo, et nous projetterons, nous diffuserons et nous discuterons de Zombies de Georges Romero. Voilà, on se retrouve vendredi pour parler d'un peintre à moustache et d'une grosse bestiole. Bye les amis, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.